France Inter.
Aujourd'hui, Uranus, la planète mystérieuse, racontée par...
Léa Gritton, maîtresse de conférences à Sorbonne Université et chercheuse en astrophysique à l'Observatoire de Paris, PSL.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est dans la petite ville de Bath, en Angleterre, que William Herschel, astronome autodidacte, installe son télescope fait maison dans le jardin arrière de sa demeure. Nous sommes en mars 1781 et sa sœur Caroline se tient à ses côtés un carnet en main. William ajuste soigneusement son télescope pointant vers le ciel étoilé. Et cette nuit-là, alors qu'il scrute le firmament, il remarque une faible lueur qui ne semble pas correspondre à un comportement étoilé ordinaire. Il y a quelque chose d'inhabituel dans le secteur zénith nord-est. Cela pourrait être une comète. Les nuits suivantes, ils reprennent leur poste, William aux commandes du télescope et Caroline toujours prête à consigner les moindres changements. Au fil des observations, une réalité étonnante commence à se dessiner. L'objet en question ne montre pas les caractéristiques typiques d'une comète. Il ne possède pas de queue lumineuse et son déplacement dans le ciel est plus lent et régulier. Les calculs de Caroline sont précis et méthodiques et après avoir comparé leurs données avec les enregistrements existants, ils réalisent ensemble qu'ils ont peut-être découvert une nouvelle planète. C'est une pensée vertigineuse car depuis près de deux millénaires, aucune nouvelle planète n'a été ajoutée à la carte céleste. Excités mais prudents, ils communiquent leurs observations à la Royal Society. Les experts confirment plus tard que l'objet est en effet une planète, le troisième plus grand corps après Jupiter et Saturne. William Herschel la baptise Georgium Sidus, l'étoile de Georges en latin, en l'honneur du roi George III. Mais le fait de nommer la nouvelle planète en l'honneur du monarque britannique suscite des critiques dans d'autres pays, si bien que Herschel opte finalement pour Uranus, en référence au dieu du ciel issu de la mythologie grecque. Suite à cette découverte, sa sœur Caroline est devenue la première femme rémunérée pour ses travaux scientifiques et William a été nommé comme astronome du roi. La découverte d'Uranus par les Herschel a été un tournant majeur pour la connaissance astronomique, mais 250 ans plus tard, cette planète reste encore très mystérieuse pour les astronomes et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Les toutes premières véritables images d'Uranus à 3 milliards de kilomètres de nous. Uranus la géante, la mystérieuse, voici sous deux aspects différents la septième planète de notre système solaire.
Et ça, c'était en 1986 sur Antenne 2. Bonjour Léa Gritton.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'émission La découverte d'Uranus en 1781. C'est vraiment un coup de tonnerre dans le ciel de l'astronomie à l'époque.
Aller voir... Alors, en 1781, oui, c'est un énorme coup de tonnerre, parce que sinon, les autres planètes... Alors, planètes au sens objet qui bouge, hein, par rapport à ce qu'on appelait les étoiles fixes, on les connaissait depuis l'Antiquité. Dans plusieurs civilisations, enfin, presque toutes les civilisations antiques connaissaient Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mais voilà, on n'avait pas découvert... On ne se souvient pas de qui a découvert ces planètes, en fait.
Ouais. Donc,
là, c'est la première découverte de planètes dont on se souvient de l'auteur.
Et de l'autrice.
Alors, moi, je ne suis pas historienne des sciences, hein, mais j'ai un tout petit doute sur le fait que si effectivement Caroline était là ou pas. Mais en tout cas, parce que pour le coup, on a vraiment étudié ses travaux après la découverte d'Uranus par son frère. Donc voilà, je suis pas assez experte en histoire des sciences pour me prononcer sur le rôle de Caroline pour Uranus, mais effectivement c'est une découverte qui a été essentielle pour la place des femmes en sciences, évidemment de manière absolument involontaire, puisque William Herschel a été donc nommé astronome privé du roi un an après la découverte d'Uranus.
Ouais.
Et donc c'est, je crois, 5 ans plus tard que le roi a fini par donner une pension de 50 livres par an.
C'est ça, il a fallu attendre
Caroline,
un petit peu quand même.
C'était un peu plus tard, on est quand même à une époque où il y a très peu de... Enfin, ça n'existe pas, les femmes rémunérées pour des travaux de recherche. Et voilà, donc c'est devenue la première femme chercheuse rémunérée de toute l'histoire connue. Et quel que soit le domaine scientifique.
C'est ça. Et ils étaient musiciens quand même au départ, hein ?
Oui, moi c'est pour ça que j'adore raconter cette histoire, c'est que c'est vraiment une histoire moderne dans le sens que aujourd'hui c'est ce qu'on appellerait des astronomes amateurs. Donc c'est des personnes qui étaient Alors lui, musicien, elle, donc, elle avait failli finir esclave domestique dans sa famille en Allemagne parce que la mort de son père, sa mère avait décidé qu'elle était trop petite et trop moche pour être mariée. Donc en fait, elle servait d'esclave à la maison. Et donc, William Herschel l'a fait venir en Angleterre quand elle avait 22 ans.
Ouais.
Alors là, elle a continué à faire les travaux à la maison, mais en plus, elle faisait polissage de miroirs, calcul, etc. Et il l'a donc initiée à l'astronomie. Alors d'abord, c'est drôle parce qu'au début, elle râle un peu. Elle dit que ça lui prend quand même beaucoup de temps, toutes ces histoires d'astronomie dans son travail à la maison. Mais elle finit voilà, par devenir son assistante et même par faire ses propres découvertes.
Alors c'est ça, parce qu'elle va devenir aussi une scientifique à part entière, après, avec ses propres découvertes.
Avec ses propres découvertes, et puis très très connue. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais Caroline Herschel, elle est connue, par exemple, on la retrouve dans des écrits d'astronome français à l'Observatoire de Paris, comme une experte. Enfin, on l'appelait pas comme ça à l'époque. Et donc, elle a signé ses propres travaux.
Qu'est-ce qu'elle découvre, elle, d'ailleurs, en particulier?
Alors, des comètes.
Ouais.
Au début, elle a découvert un compagnon du nuage de Magellan, non, de la galaxie d'Andromède. Bref, elle a fait vraiment des découvertes par elle-même, et notamment une où elle raconte qu'elle était assez angoissée parce qu'elle n'avait pas le droit, elle, d'annoncer ses résultats. En tant que femme, elle n'avait pas le droit d'aller à la Royal Astronomical Society. Et donc, elle était très inquiète parce que William était en voyage. Et donc, elle raconte qu'elle prend le risque d'écrire à un autre astronome en qui elle a confiance, parce qu'il ne fallait pas qu'on lui vole sa découverte.
Ouais.
Donc, très, très moderne de ce point de vue-là.
Il y a des drôles d'enjeux, quand même, à l'époque.
Voilà,
hein.
Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui fait les annonces pour elle, soit son frère, soit un autre homme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a vraiment envie de se faire reconnaître, elle, pour ses découvertes, même si elle était très, très modeste et très discrète toute sa vie. Et donc, elle a fini par avoir la médaille d'or de la Royal Astronomical Society, alors beaucoup plus âgée, je crois que c'était en 1828, quelque chose. Et en 1835, elle est devenue, avec Mary Somerville, une des deux premières femmes à être membre honoraire de la Royal Astronomical Society, alors que voilà, au début de sa carrière, elle n'avait pas le droit d'y mettre les pieds.
Ouais, 1835, c'est ça ?
1835.
Ouais, c'est ça. Hein.
Oui.
En tout cas, c'était important de remettre un petit peu le contexte de la découverte d'Uranus avec le frère et la sœur Herschel, dans cette époque évidemment où la science était bien différente d'aujourd'hui, et aussi à un moment où on invisibilise beaucoup le nom des femmes scientifiques. On voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Hein.
Oui, et pour cette histoire de Caroline, par exemple, en 2021 ou 2022, j'ai un doute, la rue William Herschel, qui se trouve dans le 6e arrondissement, pas très loin de l'Observatoire de Paris, a été rebaptisée rue William et Caroline Herschel, justement, ouais, pour rendre visible cette femme. Et par exemple, la même année, il y avait eu un square à Paris qui a été nommé en l'honneur de Edmée Chandon, qui était la première femme française rémunérée pour faire de l'astrophysique. Et alors là, j'ai un doute, mais je crois que c'est 1912 ou 1920. Enfin, c'est il y a moins d'un siècle, quoi.
Ouais.
Ou un siècle, c'est extrêmement récent. Donc voilà, on vient de loin. Et moi, j'aime bien aussi travailler sur cette planète avec tout ce contexte d'histoire des femmes et des sciences.
Uranus, donc, hein, puisque c'est cette planète qui nous intéresse aujourd'hui, dont on entend, c'est vrai, quand même beaucoup moins parler que Mars ou Jupiter, par exemple. Septième planète du système solaire. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, il y a moins de connaissances, en fait, ou moins de médiatisation, tout simplement, autour d'Uranus ?
Bah parce que c'est une planète qui est extrêmement lointaine. On ne se rend pas forcément compte, nous, en tant que terriens. Mars, déjà, c'est simplement une fois et demie plus loin du Soleil que la Terre.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle la distance Terre-Soleil moyenne, on appelle ça l'unité astronomique. Mars, elle se trouve à peu près à une unité astronomique et demie du Soleil. Et déjà, vous voyez, quand on envoie des rovers sur Mars, par exemple, le temps de trajet minimum, c'est à peu près 6 mois.
Ouais.
Et c'est une planète qu'on voit à l'œil nu, c'est une planète qu'on veut voir même en ce moment dans le ciel la nuit. Jupiter, c'est pareil. Uranus, comme elle est très très lointaine, depuis la Terre, on la voit comme une petite étoile parmi d'autres. C'est quasiment impossible de la distinguer à l'œil nu. Et donc, forcément, c'est une planète plus inaccessible que Mars et Jupiter.
En termes de kilomètres, alors déjà, distance Terre-Soleil, tiens, pour remettre un petit peu.
Alors ça, c'est une question que je pose à mes étudiants à l'université.
C'est ça.
Donc, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Et là, Uranus, on parle de 19 et quelques unités astronomiques, donc c'est plutôt de l'ordre de 3 milliards de kilomètres.
C'est ça.
C'est vraiment très très loin. Elle fait le tour du Soleil en 84 ans.
Waouh.
Et donc par exemple, c'est pour ça que quand on regarde la découverte de Neptune, qui, comme les auditrices et auditeurs les plus les plus férus d'histoire des sciences le savent, a été découverte par des calculs de... Justement, on observait la trajectoire d'Uranus autour du Soleil, on a vu qu'il y avait des variations qu'on ne comprenait pas, et donc on a soupçonné qu'il y avait une autre planète qui perturbait le mouvement d'Uranus, et donc quand on regarde les dates, il a fallu attendre qu'Uranus fasse à peu près un tour autour du Soleil pour qu'on puisse découvrir Neptune.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette planète Uranus, qui vous intéresse autant, alors Léa Gritton ? Qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord ? Si on fait une sorte de petite fiche d'identité rapide sur les particularités d'Uranus.
Alors, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que Uranus représente une catégorie de planètes dans le système solaire qu'on appelle les géantes de glace, qui est absolument méconnue, puisque les deux seules représentantes, c'est Uranus et Neptune, et donc qu'on n'y a jamais envoyé de mission spatiale dédiée. Donc, une géante de glace, pourquoi ? Alors, donc,
vous imaginez vraiment la grosse boule de glace ?
Alors, non, je disais ça aussi pareil aux enfants quand ils viennent à l'Observatoire de Paris. C'est pas une boule de glace à Gundas, hein, c'est même si ce serait rafraîchissant. Mais non, l'idée, c'est qu'en gros, dans le système solaire, on a quatre planètes de type qu'on dit tellurique, donc qui ressemblent à la Terre, qui ont une surface solide, qui sont petites par rapport au Soleil. Ensuite, on a deux planètes géantes gazeuses, qui sont dites gazeuses parce qu'en astrophysique, les gaz, enfin ce qu'on appelle les gaz, c'est l'hydrogène et l'hélium. Après, voilà, tout le reste, c'est d'autres... voilà. Mais l'hydrogène et l'hélium, c'est ça qui constitue le Soleil, donc c'est la matière principale du système solaire. Et donc, Jupiter et Saturne sont faites majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Elles sont immenses par rapport à la Terre. Et ensuite, on a deux autres planètes qui sont des géantes parce que plus grosses que la Terre, mais quand même beaucoup plus petites que Jupiter et Saturne, qui ont une taille à peu près similaire. Mmh. Et elles sont faites évidemment d'hydrogène et d'hélium aussi, mais elles ont des traces d'eau, de méthane, d'ammoniac, qui sont donc ce qu'on appelle des glaces en astrophysique, et donc des atomes qui peuvent exister à ces distances-là du Soleil.
Et ces deux planètes, c'est Uranus et Neptune.
Exactement.
En l'occurrence. Voilà. Alors, il y a donc une particularité quand même dont il faut parler aussi tout de suite, c'est la rotation d'Uranus. On l'appelle la planète penchée aussi, c'est ça ?
Oui. Alors, ça, pour s'imaginer... Alors, la radio, c'est pas facile, parce qu'on n'a pas de quoi vous faire un schéma. Mais donc, si vous imaginez que le Soleil est posé sur une table, en bois, par exemple, et que les planètes tournent sur elles-mêmes comme des toupies, et qu'elles font ensuite le tour donc, du Soleil, eh bien, toutes les toupies des planètes, le petit bâton au milieu de la toupie, il est à peu près perpendiculaire à la table, grosso modo. C'est un peu comme ça qu'on peut s'imaginer l'axe de rotation des planètes. Alors, il y en a qui tournent dans l'autre sens, par exemple Vénus, mais globalement, l'axe de rotation, ce qu'on appelle l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan, qui s'appelle le plan de l'écliptique.
Et donc pour Uranus, qu'est-ce qui se passe ?
Et Uranus, en fait, c'est un peu comme si la toupie, elle roulait sur le côté. Donc son axe de rotation au solstice, il est dans la direction Soleil-planète. Et puis, un quart d'année uranienne plus tard, il est perpendiculaire à cette direction Soleil-planète. Mais dans tous les cas, la planète, elle est penchée. Et ça, c'est drôle parce que Herschel s'en était rendu compte assez rapidement parce que dès 1787, donc 6 ans après la découverte d'Uranus, il observe les lunes d'Uranus. Et pour celles et ceux qui ont fait un peu d'observation amateur, par exemple, si vous regardez les lunes de Jupiter tournées autour de Jupiter, comme Galilée l'avait fait, vous voyez les lunes en fait passer de gauche à droite de la planète. Parce que justement, l'axe de rotation, il est de telle sorte que les planètes, elles passent devant ou derrière. Et Uranus, dès 1787, William Herschel, il voit qu'elle tourne autour de la planète dans le ciel. Donc, il s'imagine que l'axe de rotation est plutôt vers nous et pas vers le haut. Enfin, vers le haut, c'est...
Et en termes de degrés, elle est penchée de combien, alors ?
Son axe de rotation, il est à peu près à moins 7 degrés, je crois, du plan de l'écliptique. Donc, c'est quasiment perpendiculaire, quoi.
Oui. Donc, planète...
90 degrés, on peut retenir.
Oui, c'est ça, quand même.
Oui, non, elle est bien planchée.
Uranus, c'est le dossier de la Terre au carré cet après-midi, qui va faire l'objet d'une mission. Il va falloir être patient, évidemment, quand on est astro, mais ça arrive. Et vous nous direz en quoi cette planète reste mystérieuse, parce qu'effectivement, on a un manque de connaissances par rapport à beaucoup d'autres. Et c'est l'objet de ce dossier cet après-midi. Vous pouvez nous rejoindre avec vos questions et vos messages sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
D'un volume suffisant pour contenir 60 fois la Terre, Uranus est situé à 3 milliards de kilomètres de notre planète, entre Saturne et Neptune. Ce lointain objet de notre système solaire n'avait pu jusqu'alors être observé qu'à l'aide de puissants télescopes. Depuis cette année, il a révélé quelques-uns de ses secrets grâce à la sonde Voyager 2, lancé le 20 août 77 et qu'il l'a frôlé à seulement 80 000 km. L'occasion de faire toute une série de photos de ce monde inhospitalier, un monde qui a réservé quelques surprises aux chercheurs de part et d'autre de l'Atlantique.
Archive d'FR3, et là, c'est une année importante, 1986. Léa Gritton, vous qui êtes astrophysicienne, est notre invitée pour nous parler d'une planète que l'on connaît encore mal, mais que vous aimez beaucoup, Uranus, donc en l'occurrence. 86, effectivement, c'est le survol de la sonde Voyager. Et finalement, depuis, on n'y est pas retourné.
Eh bien non, depuis on n'y est pas retourné, mais c'est pour ça qu'on va y retourner.
Avec toute la patience nécessaire.
Oui, là on parle de patience. D'ailleurs, je pense que ça sera le prochain nom du prochain rover sur Mars, hein, après Curiosity et Persévérance.
Ouais.
Non, mais effectivement, donc 86, c'est une grande année. Donc une sonde spatiale de la NASA qui survole Uranus le 24 janvier, si je ne me trompe pas. Et qui va faire un certain nombre de découvertes qu'on ne peut pas faire depuis la Terre, donc notamment des découvertes de lunes.
Ouais.
Donc à l'époque, je crois qu'ils ont découvert 10 lunes grâce à ce survol. Les lunes de Uranus, pour la petite histoire, c'est un des derniers hommages qu'on garde de l'histoire de Herschel, c'est qu'elles sont nommées avec des personnages de Shakespeare, parce qu'il avait utilisé les personnages du Songe d'une nuit d'été pour nommer les lunes qu'il avait découvertes lui. Donc voilà, donc aujourd'hui on connaît 28 lunes d'Uranus. C'est aussi une planète qui a un système d'anneaux qui est très intéressant, très sombre, donc très difficile à voir depuis la Terre.
C'est pas Saturne, hein, c'est pas les,
alors,
les,
non, non,
les,
c'est,
les anneaux saturniens.
On n'en est pas du tout au niveau des anneaux de Saturne, mais c'est quand même un système d'anneaux qui a été observé récemment par le James Webb Space Telescope, par exemple. Donc voilà, on peut faire quelques découvertes depuis la Terre, mais...
Et c'est vrai qu'on a encore besoin vraiment d'y retourner, parce que on sait peu de choses encore sur Uranus.
Il y a énormément de questions qu'on ne peut pas résoudre tant qu'on n'a pas été sur place avec un orbiteur qui permet de prendre des mesures sur un temps long.
L'histoire de la rotation, par exemple, cette planète penchée, ça pourrait permettre d'en savoir plus sur ce phénomène ou pas?
Oui, parce que quand on va sur place, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure avec précision le champ de gravitation, parce qu'on mesure avec précision la position de la sonde autour de la planète. Donc on a une mesure du champ de gravitation qui serait beaucoup plus performante que celle qu'on a aujourd'hui avec un simple survol qui a duré quelques dizaines d'heures. On va en savoir plus sur le champ magnétique, ça c'est très important, notamment pour mes travaux à moi, mais le champ magnétique c'est quelque chose qu'on mesure pas à distance, à part quand on voit des émissions aurorales, on pourra en reparler, mais a priori ça ne se voit pas, sauf si on le mesure sur place. Or, c'est dans les planètes géantes qui n'ont pas de surface, avec pas de cratères ou qui permettent de se repérer, on mesure la rotation des planètes géantes grâce au champ magnétique.
Ouais.
Donc, tant qu'on n'a pas une mesure précise du champ magnétique, on perd des informations sur la rotation, on perd des informations sur la structure interne, parce que pour reconstituer l'intérieur d'une planète, on ne va pas envoyer des robots dedans. Hein. Les sondes de rentrée atmosphérique, par exemple, sur Jupiter ou Saturne, elles survivent 8 minutes
d'imploser. D'être complètement brûlées.
Donc, on ne peut pas envoyer de sondes à l'intérieur. Donc, comment on fait? Alors, pas moi, mais mes collègues qui sont spécialistes des intérieurs planétaires. En fait, il faut imaginer un peu ça comme un gâteau. Ils se disent, tiens, à la fin, on avait un gâteau au chocolat qui avait telle consistance. Bon, quels sont les ingrédients qu'on va mettre dedans? Et puis, avec quelle couche?
Pour retrouver le même gâteau.
Voilà, pour retrouver à la fin le même gâteau.
C'est ça.
C'est comme ça qu'on fait. Et donc, pour pouvoir retrouver le bon gâteau pour Uranus, là, pour l'instant, on a quelques mesures du champ de gravitation grâce aux lunes et puis aux mesures de Voyager 2. On a quelques mesures de la composition de l'atmosphère, les couches les plus externes de l'atmosphère, notamment grâce à des observations du Hubble Space Telescope, puis du James Webb, puis d'autres instruments sur Terre. On a aussi des mesures de l'atmosphère grâce à des transits quand la planète passe devant des étoiles.
Ouais.
Etc. Mais voilà, il y a énormément de choses qu'on ne mesure que sur place, donc le champ de gravitation, le champ magnétique, etc.
Ouais.
Et effectivement, oui, il faut absolument qu'on puisse y retourner. Et donc là, en 2022, l'équivalent de l'Académie des sciences américaine a effectivement mis dans ses priorités pour la NASA, pour les 10 prochaines années dans le système solaire, l'exploration d'Uranus.
Ouais. Pourquoi priorité d'ailleurs? Parce qu'au-delà de la connaissance qui est importante, évidemment, quel est l'intérêt, au fond, d'envoyer une sonde qui va mettre quoi, 14 ans, 13-14 ans pour y arriver?
Oui, alors entre 12 et 15 ans, en fonction des planètes qu'on pourra survoler pour y aller. L'intérêt, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les planètes géantes glacées, c'est une catégorie de planètes sur 3. C'est donc un quart des planètes du système solaire qu'on ne comprend pas, dont on ne sait quasiment rien. Pour l'instant, il y a énormément de modèles qui sont possible, compatible avec le peu de données qu'on a. Donc plus on va avoir de données, plus on va pouvoir restreindre les modèles et les scénarios. Et en fait, ça pose des très grosses questions, notamment sur l'histoire du système solaire. Ça, c'est une des quatre grandes questions de planétologie, c'est comment le système solaire s'est formé. Et en fait, quand on va observer les exoplanètes, là, cette année, on fête les 30 ans de la première découverte.
95.
Voilà, donc première découverte d'une exoplanète. Depuis 30 ans, on en a découvert plus de 7000. Dans ces plus de 7000, il y en a une énorme partie. Alors, à cause des biais observationnels, hein, ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement, c'est vrai dans tout l'univers, mais de par les biais d'observation qu'on a, une très grosse partie des exoplanètes sont de taille entre celle de Neptune ou Uranus et celle de la Terre. Donc, c'est ce qu'on appelle des mini-Neptunes. Alors, on ne dit pas mini-Uranus juste parce qu'en anglais, mini-Uranus, ça fait trop bête. Enfin, c'est vraiment la seule raison, parce qu'elles ont la même taille. Donc. Ouais. Mais donc, on dit des mini-Neptunes, c'est plus correct. Mais globalement, ces exoplanètes, elles sont donc des mini-Neptunes ou des super-Terres. Quand elles sont gazeuses, on dit des mini-Neptunes. Or, on ne comprend pas déjà chez nous comment ces planètes sont formées.
Donc c'est fou parce qu'effectivement, on a découvert plus de 700 exoplanètes aujourd'hui. On en parlait, 7000, pardon. on en parlait énormément. Et pourtant, on a encore un manque de connaissances sur les planètes même de notre propre système solaire qui fait vraiment lieu de petits systèmes par rapport à tout ce qu'on découvre. Et d'où l'intérêt d'envoyer cette mission qui va donc poser aussi un certain nombre de défis technologiques parce que l'environnement d'Uranus, c'est quand même c'est costaud pour du matériel.
Alors oui, déjà, c'est très très loin, donc on a beaucoup de mal à l'observer depuis la Terre, donc pour préparer une mission, c'est compliqué. Ça, c'était une des raisons aussi pour laquelle l'Académie scientifique américaine a retenu Uranus et pas Neptune. C'est que, mine de rien, c'est un petit peu plus près, donc un peu plus facilement observable depuis la Terre.
Mais très froid quand même.
Ah oui, très très froid. Et ça, c'est un des grands mystères de planétologie aussi qu'on voudrait résoudre. C'est que, bizarrement, Neptune est plus loin qu'Uranus, mais elle est plus chaude. On explique ça par le fait qu'il y a sans doute une
différence. Elle est plus loin du Soleil.
Oui, voilà. Neptune, elle est carrément plus loin, parce que Uranus, globalement, c'est 20 fois la distance Terre-Soleil, et Neptune, c'est 30.
Donc et pourtant, il fait plus chaud sur Neptune que sur Uranus.
Alors, on ne dirait pas qu'il fait plus chaud, mais c'est la planète qui émet plus de chaleur que Uranus. Et donc, on pense qu'elle n'a pas les mêmes... malgré leur ressemblance de taille, etc., il manque quelque chose à Uranus qui n'a pas cette source de chaleur interne que.
C'est quoi la température ? On peut donner une température moyenne d'Uranus ou pas d'ailleurs ?
Oui, alors il y a des températures d'atmosphère. Là, j'ai un trou. Je ne me souviens pas exactement, mais bon, c'est.
Moi, effectivement... j'ai moins 224 degrés Celsius. C'est
possible,
ça ?
C'est très très loin. Et en plus, on parlait de défis technologiques. Nous, c'est aussi une des. Enfin, des problématiques qu'on a, nous, chercheurs européens, c'est que depuis Uranus, en fait, le Soleil, on le voit comme une grosse étoile. Mais on ne peut plus utiliser de panneaux solaires pour aller à Uranus. Et donc, en Europe, on a décidé qu'on ne voulait pas mettre d'éléments radioactifs dans l'espace.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que, par exemple, la plus grosse mission, la plus lointaine actuellement prévue par l'Agence spatiale européenne, c'est JUICE, qui va partir vers Jupiter, avec des panneaux solaires immenses, qui d'ailleurs perturbent les mesures scientifiques de manière qu'on essaye de contrôler, mais tellement ils sont grands.
Il y a des enjeux de propulsion très forts.
De propulsion, surtout d'énergie une fois sur place. Mais tout ça pour dire qu'on peut pas, l'Europe ne peut pas toute seule partir explorer Uranus.
Ouais.
Et donc, on dépend de l'agence spatiale américaine, la NASA, pour y aller.
Qui traverse quelques périodes chaotiques quand même.
Oui, alors si je veux pouvoir retourner aux États-Unis ces 4 prochaines années, je n'en dirai pas plus. Non, je rigole. Non, c'est vraiment très triste. Hein. C'est pas, on rit pour ne pas pleurer.
Ouais.
Mais effectivement, là, on assiste à...
Effectivement, une mission comme ça qui a été annoncée il y a 2 ans, hein, donc avant... Ouais. Le retour de Trump, aujourd'hui, elle est possiblement menacée ou pas ?
De toute façon, oui, tant que c'est pas parti, c'est menacé. Hein, mais c'est impressionnant de voir à quel point... en 2018, j'avais participé à une interview pour Le Monde où je disais avec beaucoup d'innocence que j'avais choisi de faire de l'astrophysique parce que c'était loin de l'actualité des guerres, etc.
Ouais.
Et en fait, là, on est à une période où malheureusement, on se fait rattraper par l'actualité. Déjà, il y avait eu le Covid et puis ensuite la guerre en Ukraine qui a retardé des missions, par exemple, sur Mars. Il y a une mission entre l'ESA et la Russie qui a été beaucoup retardée parce qu'on ne pouvait plus travailler avec la Russie. Et bien là, pour Uranus, donc la mission a été mise en priorité en 2022. Et il faut imaginer que les gens... Moi, je suis arrivée récemment sur ce projet, mais les gens travaillent dessus depuis 1986. Ouais. Donc, c'est un projet au long cours énorme.
Avec toute la patience nécessaire, une planète qui est extra loin.
Qui est très, très loin. Donc, on fait maturer des technologies pour y aller. Et donc là, ensuite, on n'avait pas eu de décision parce qu'il fallait attendre des élections américaines. Et là, en ce moment, du coup, effectivement, tout est un peu suspendu.
Léa Gritton, vous êtes notre invitée. Et puis, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr, sur la page de La Terre au Carré, pour parler Uranus.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Demandons maintenant au professeur Jean-Claude Pecker de nous faire connaître Uranus, Neptune, Pluton, découvertes toutes les trois à l'époque moderne.
La première à être découverte a été Uranus. Uranus a été découvert au XVIIIe siècle et depuis, on a observé Uranus, on a observé les irrégularités du mouvement d'Uranus et uniquement par le calcul, Le Verrier, au milieu du XIXe siècle, est arrivé à expliquer que ces perturbations du mouvement d'Uranus étaient dues à l'existence d'une planète au-delà d'Uranus qu'on n'avait encore jamais observée. Il a calculé la position approximative de cette planète, on n'a plus eu qu'à pointer dans la bonne direction, c'est un astronome allemand, Gall, pour trouver la planète Neptune.
Voilà, encore un peu d'histoire des sciences avec cette archive d'FR3 en 1977, extrait de l'émission Voyage dans le cosmos. Léa Gritton, vous qui êtes astrophysicienne et qui nous permettez de mettre le cap sur Uranus. Quand est-ce qu'on va espérer survoler la planète, justement? On disait qu'il faut 13, 14, 15 ans.
Oui, alors...
Au mieux, si tout va bien,
on essaye de lancer la mission en 2031, donc ça commence à être très court, hein, en termes de développement de mission, pour arriver donc au mieux dans les années 2044, au pire autour de 2050, sachant que nous, ce qu'on vise en tant que scientifique, c'est la période de l'équinoxe, qui est une saison donc sur Uranus qu'on ne connaît pas encore bien, puisque la mission Voyager 2 était arrivée à un solstice. Donc, voilà.
Donc il faut viser juste, en plus.
Et voilà, et c'est 2049, donc un peu avant, ce serait mieux justement pour des questions de lumière, parce qu'on pourrait mieux voir les anneaux, notamment les lunes, etc. Mais c'est à peu près notre objectif.
Et vous serez encore en activité, heureusement.
Bien sûr. J'ai la chance d'avoir un poste permanent en France.
Quoi qu'il arrive, de toute façon.
Non, et puis c'est vraiment une mission que j'aime aussi pour ça, parce que c'est vraiment une aventure humaine de science. Moi, parfois, voilà, quand je fais des conférences scientifiques, une des grosses critiques qu'on fait, et c'est normal, hein, à la recherche, c'est voilà, en termes d'émissions de CO2, de carbone, comment on fait, etc.
Et de coûts aussi.
De coûts, hein, parce que ça, là, le projet Uranus, Orbiter and Probe, il est estimé à 4 milliards de dollars. Donc, on ne parle pas de petites sommes. Mais en même temps, c'est des questions fondamentales, parce que là, on parle d'une mission très transdisciplinaire, qui va concerner toute la communauté de la planétologie, de l'histoire des planètes, etc., etc., très international, très intergénérationnel, puisque comme on l'a dit, les experts de 86, alors il y en a encore qui sont en vie, mais heureusement, mais voilà, et donc il faut transmettre ça aux générations futures. Les doctorants en 2044, ils ont l'âge de ma fille qui a 2 ans.
Mais là, vous allez convaincre les convaincus, j'allais dire, c'est-à-dire les scientifiques. Après, pour le citoyen moyen qui n'a pas vraiment de connaissances sur les enjeux du système solaire, il va se dire, mettre 4 milliards de dollars pour aller sur Uranus, à un moment on coupe dans tous les budgets, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Et puis effectivement, sur l'empreinte carbone aussi d'une telle mission, vous qui êtes très intéressé aussi par ces questions-là, qu'est-ce que vous répondez, vous, à ce sujet alors?
Moi, je réponds qu'effectivement, alors déjà, il faut savoir que la communauté de recherche en astrophysique, c'est une des premières qui s'est posé la question de son bilan carbone. Donc ça montre quelque chose, c'est qu'à force de dire il n'y a pas de planète B, on sait très bien qu'il n'y a que la Terre où la vie peut exister sous la forme qu'on la connaît à proximité de chez nous, on ne peut pas dire il n'y a pas de planète B et ne pas étudier notre propre impact en tant que chercheur en astrophysique. Et par exemple là, le CNES, l'Agence spatiale de la France, qui fait son séminaire de prospective tous les 5 ans, là pour la première fois en septembre dernier, il y a eu un groupe de travail sur l'impact carbone des activités en astrophysique, et donc on commence à réfléchir à comment réduire cet impact, et ça déjà c'est un pas énorme en termes de progrès, de méthodes de travail, etc. Et donc en tout cas pour Uranus, voilà, on vous parle de 2044 quand on regarde les courbes du réchauffement climatique, etc. Si en 2044 on ne peut plus respirer correctement ou qu'il fait trop chaud, etc., ça n'a plus d'intérêt d'aller à Uranus. Donc ça nous force aussi à être respectueux de l'environnement au maximum. Et par contre, en astrophysique, on a aussi un rôle, et ça je pense que c'est exceptionnel, un rôle de faire aimer les sciences aux gens. Parce que c'est une science qui justement est assez apaisante, qui est liée beaucoup à la science-fiction, qui est liée à la poésie, qui est liée à beaucoup de choses. Et donc par exemple, on a un rôle reconnu pour attirer les jeunes vers les disciplines scientifiques. Aujourd'hui, on sait qu'en France, on a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par faire des sciences. Et donc, on a un peu un devoir en tant que développement durable de promettre aux générations futures qu'elles auront aussi des données à exploiter. Si on arrête la recherche aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il faudrait faire, hein, si on veut vraiment... Si on arrête la recherche aujourd'hui, le temps qu'on mettrait plus tard à retrouver toute la connaissance qu'on va perdre en arrêtant la recherche, ça va être un trou énorme en fait en termes de connaissances. Donc on est obligé de maintenir une activité. Évidemment, on fait attention.
Avec une période où il y a déjà beaucoup de science qui est en train de se perdre, hein, versus ce qui se passe évidemment aux États-Unis.
Hein. Exactement.
Léa Gritton, il y a deux choses dont on n'a pas beaucoup parlé. J'aimerais avoir quelques explications rapidement avant de passer aux questions des auditeurs et des auditrices. Le champ magnétique et les aurores sur Uranus, parce que ça fait l'objet de vos travaux aussi et de découvertes récentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, alors donc moi, le champ magnétique, c'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que mon travail de chercheuse, c'est de reproduire avec un ordinateur comment le vent solaire, qui est un plasma qui est éjecté du Soleil en permanence, interagit avec les planètes. Moi, j'adore cette idée de que les étoiles et les planètes interagissent. Et donc, sur Uranus, pendant ma thèse, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de calcul de simulation numérique de la magnétosphère d'Uranus, à part un article américain où, pour des questions de simplicité, les chercheurs n'avaient pas mis de champ magnétique dans le vent solaire. Or, on sait que c'est un rôle extrêmement important. Donc moi,
Vous êtes engouffré dans cette faille.
J'essaye de reproduire la magnétosphère d'Uranus. Et donc, en ce moment même, je suis en train de lancer des calculs pour voir comment une sonde spatiale en 2049 va mesurer le champ magnétique. Donc, je reproduis cette magnétosphère telle qu'on la pense aujourd'hui pour comparer avec des futures données.
Et les aurores ?
Et alors, les aurores, oui, ça, je voulais en parler parce que donc, je suis responsable d'une équipe dans mon laboratoire, le LIRA, Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique de l'Observatoire de Paris, qui s'appelle Héliosphère et Plasma Astrophysique. Et dans notre équipe, on a deux chercheurs, Laurent Lamy et René Pranger, qui sont en train de publier une étude dans Nature, alors avec un chercheur, Jérôme Berthier du Laboratoire Temps-Espace de l'Observatoire de Paris, comme ça j'aurais oublié personne. Et donc cette étude, en fait, c'est un travail aussi génial. C'est une étude, ils ont observé les aurores d'Uranus pendant plus de 10 ans pour essayer de retrouver l'axe magnétique d'Uranus et mesurer justement la période de rotation. Et pour faire très court, après 86, le survol de Voyager 2, on a mesuré la période de rotation d'Uranus à 17,24 heures, mais avec une précision qui faisait qu'au bout de quelques années, on a perdu le système de longitude de la planète, puisque la rotation, ça permet d'obtenir les longitudes. Et là, grâce aux travaux de cette équipe de chercheurs, ils ont trouvé une période de rotation 1000 fois plus précise, qui donc correspond à la fois aux données de Voyager 2, aux 10 ans d'observation avec le Hubble Space Telescope, mais aussi aux observations du James Webb de l'année dernière. Et donc, ils ont permis de définir un système de longitude pour Uranus qui sera encore valable en 2049.
Et ça va sortir en plus, ça n'a pas été publié encore.
Et non, c'est un scoop France c'est Inter.
Terre au carré.
Voilà, Terre au carré. Et donc, la publication dans Nature Astronomy, je crois, est prévue pour le 7 avril.
Allez, on passe aux questions, Léa Gritton. Annie nous dit ceci, si j'ai bien compris, l'explication de l'attitude penchée d'Uranus, ça veut dire qu'elle présenterait toujours la même face au Soleil ?
Alors, ce n'est pas vraiment le cas, puisque déjà, il n'y a pas vraiment de face hein, sur Uranus, c'est une planète gazeuse. Mm-hmm. Non, c'est plutôt, si vous voyez sur Terre, on dit que en hiver ou en été, par exemple, les gens qui sont pile au pôle Nord, ils ne voient que la nuit ou que le jour. Et bien là, c'est comme si toute la partie nord de la Terre, au-dessus de l'équateur, vous voyez que le soleil pendant la moitié de l'année.
C'est ça.
Et inversement pour l'autre hémisphère.
Voilà, c'est pas tout le temps. Hein. C'est une moitié de l'année, mais ça dure quand même très longtemps.
Voilà.
Catherine demande, est-ce que la composition des planètes du système solaire est liée à leur distance au soleil ?
Ça, c'est quelque chose qu'on était enfin très content d'avoir expliqué dans le système solaire. Hein, proche du soleil, il n'y a plus de gaz parce que le soleil a tout pris, donc c'est pour ça qu'on a les planètes telluriques. Mmh. Et puis plus loin, là où il reste du gaz, on a fait des planètes gazeuses. Là où c'est génial l'astrophysique et la planétologie aujourd'hui, c'est qu'avec les exoplanètes, on trouve des systèmes où il y a des Jupiters chauds, donc
c'est
des planètes de type gazeuse, mais plus près du soleil, enfin de leur étoile, que les Mercure du soleil. Et donc en fait, on est à une époque où il faut tout réinventer.
Complètement contre-intuitif.
C'est ça. Et voilà.
Et tout est possible finalement. Erwan nous demande, est-ce qu'on peut considérer Uranus comme une proto-étoile, un peu comme Jupiter, une étoile ayant manquer de gaz pour briller.
Alors la question de pourquoi Uranus et Neptune n'ont pas autant d'hélium et d'hydrogène que Jupiter et Saturne, ça c'est effectivement une des très très grandes questions en cours. Mm-hmm. On pense que c'est lié à ce qu'on appelle les migrations planétaires et l'histoire de la formation du système solaire. Après, de là à dire que c'est une étoile ratée, je pense que quand même, il manquerait quand même beaucoup de masse pour pouvoir faire une étoile.
Ouais. Thomas demande, est-ce qu'il y a du méthane dans Uranus ?
Oui, il y a du méthane dans Uranus.
Très bien. Merci. Voilà.
Je ne sais pas si c'est une information.
De valider cette réponse. Et j'aimerais savoir, dit Dominique, comment vous percevez la manière dont votre profession est représentée dans les films comme Don't Look Up, qui vous représente un peu tout le temps sur le feu, tout le temps dans une dynamique d'observation. Est-ce que ça fait vraiment partie de votre quotidien ou est-ce que c'est beaucoup plus éparse? C'est bien ça comme question.
Oui, c'est une question passionnante. Alors moi, personnellement, par exemple, je ne travaille jamais avec des données de télescope, donc je ne suis pas du tout comme le personnage de Don't Look Up. Je travaille avec des instruments qui sont sur des missions spatiales qui partent très très loin dans l'espace. Sinon, ma journée, je fais aussi des cours, je suis sur France Inter aujourd'hui. Donc, le métier de chercheur, en fait, il comporte tout un tas de missions qui vont de l'augmentation des connaissances jusqu'au partage de la culture scientifique.
Et vous écrivez des livres comme Enquête de planète.
Un livre,
chez Quanto.
Oui.
C'était en septembre 2023, Enquête de planète. Merci beaucoup, Léa Gritton, d'être venue dans la Terre au Carré aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.
Et merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier.